Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Academy reçoit un recueilleur de lumière, un passeur de savoir. Trinh Xuan Thuan, bonjour.
Bonjour.
Le cosmos et le lotus est paru aux éditions Albin Michel. Cet ouvrage vient d'être couronné par deux fois le prix Louis Powells. Les auditeurs de Canal Academy peuvent d'ailleurs télécharger cet événement, cette remise de prix. Et le grand prix de la Fondation Cino del Luca, qui vous a donc été remis à l'Institut de France, même sous la coupole. On peut dire ce prix petit frère du Nobel ?
Oh, ça c'est trop dire, mais en tout cas, j'étais très 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 honoré que l'Institut de France m'a honoré du prix Simone Cino del Luca. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement le cosmos et l'autisme, mais c'est pour toute mon œuvre, vous voyez. Et une des choses dont je suis fier, vous savez, j'écris tous mes livres en français. Que l'Académie française, qui est donc le garant de la langue française, me décerne ce prix, pour moi, c'est un grand honneur. Et je suis vraiment très honoré que donc l'Académie ait reconnu le fait que j'écrive en français.
Justement, les auditeurs de Canal Academy peuvent être aussi les témoins de cette grande remise de prix en téléchargeant cette émission également dans la bibliothèque d'émissions de Canal Academy. Alors, prochainement, nous diffuserons également l'interview exclusive que vous nous aviez accordée lors de la remise du prix Louis Powells concernant cet ouvrage, Le Cosmos et le Lotus. Alors, est-ce que l'on peut dire que cette reconnaissance, comme vous venez de le souligner, de toute votre œuvre jusqu'à présent, vous fait repositionner votre travail que vous-même qualifiez de recueilleur de lumière, de passeur de savoir, comme vous l'avez souligné ces derniers temps, je crois, en mettant l'accent sur le travail de communication?
Pour moi, ce prix est un grand encouragement à continuer mon œuvre de vulgarisation scientifique, parce que je me suis toujours défini comme ayant trois casquettes. La casquette d'abord de chercheur, parce que je suis astrophysicien, donc essayer de faire reculer un tant soit peu les frontières de la connaissance en astrophysique, et mon domaine, c'est surtout la formation et l'évolution des galaxies naines. Et puis, je suis professeur, donc vous voyez déjà, dans le but donc, de transmettre le flambeau, en quelque sorte, à la prochaine génération. Mais, vous savez, quand j'enseignais à l'Université de Virginie, et j'enseigne toujours à l'Université de Virginie, où j'ai un cours, qui s'appelle l'astronomie pour les poètes. D'ailleurs, c'est l'astronomie pour les littéraires, les gens qui se destinent pas à la science, vous voyez. Et pour moi, je trouve que c'est plus un challenge, justement, parce que enseigner à des gens qui sont déjà des scientifiques, qui sont déjà conquis par la science, c'est peut-être moins un défi que d'enseigner à des gens qui, en fait, ne font pas faire de la science leur métier plus tard. Mais donc, moi, je voulais leur communiquer juste mon enthousiasme et pourquoi, en fait, la science doit faire partie intégrante de la culture d'un honnête homme qu'on le concevait au XVIIe siècle. Mais vous voyez, c'était toujours assez frustrant quand même, parce que même si ma classe est toujours très bondée, c'est-à-dire 140 étudiants, mais c'est quand même une petite fraction de la population. Donc, quand un éditeur de Feuillère m'a contacté pour écrire un livre de cosmologie, donc sur l'histoire de l'univers, et ce sera donc La Mélodie Secrète, j'ai sauté sur l'occasion parce que voilà une occasion, donc, vous voyez, de communiquer mon amour de la science, mon admiration devant la beauté et l'harmonie de l'univers à un public qui est beaucoup plus large et en fait qui n'est pas du tout scientifique. Et donc, c'était pour moi primordial.
Alors, j'entendais sur les ondes de France Culture dernièrement l'un des responsables de la communication du CNRS se plaindre justement de ce non-savoir de communiquer sur la science de la part des scientifiques et donc dire qu'il y avait une communication déficiente qui ne fonctionnait pas. Alors, on peut se demander pourquoi. Alors, parce qu'on tombe très facilement dans le sensationnel, dans l'événementiel, avec des titres très interpellants, mais sont-ils des titres que vous, Trinh Xuan Thuan, vous cautionneriez avec votre connaissance scientifique? Certainement pas. Ou alors, on passe du côté des scientifiques et ce sont les communiqués scientifiques qui vont vers les scientifiques. Mais entre les deux, Où est la juste mesure? Et nous, là-dedans, qui avons besoin de savoir que nous sommes poussière d'étoiles?
Oui, oui, c'est une très bonne question. Et c'est vrai que c'est un art, vous savez, de pouvoir communiquer la science. Parce que, en tant que scientifique, bien sûr, je voudrais conserver la rigueur scientifique, c'est-à-dire ne pas dire des choses trop simplifiées qui ne sont pas dans l'esprit des recherches. Mais il faut aussi le dire de manière, moi je dirais, poétique, de manière ludique, afin donc d'intéresser le plus grand nombre. Donc pour moi, le challenge, bien sûr, quand j'écris mes ouvrages, moi j'essaie toujours d'écrire ça comme à la manière d'un roman. Vous voyez, il faut que tenir en haleine le lecteur et essayer donc de l'amener lentement vers la conclusion, comme justement un roman policier. Parce qu'en fait, vous savez, en astrophysique, en fait, le processus de la recherche est un peu comme la découverte de Sherlock Holmes ou de Hercule Poirot ou d'Agatha Christie. Vous savez, parce que le crime a été commis il y a très très longtemps. Dans notre échelle de temps astronomique, c'est des millions, voire des milliards d'années. On voit les résultats maintenant. Donc, il y a des indices, des fossiles. Et puis, il faut reconstituer l'histoire. Comme Sherlock Holmes, vous savez, qui regarde les empreintes, etc., et essaie de trouver le coupable. Ici, nous essayons de trouver donc les causes physiques, les phénomènes. Par exemple, la disparition des dinosaures. Qu'est-ce qui a fait que les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années? Donc, vous voyez, nous savons maintenant que c'est un grand astéroïde qui a percuté la Terre. Et donc, on rassemble les indices. Donc, par exemple, les géologues creusent la Terre. Donc, et vous savez qu'en creusant la Terre, on remonte le temps. Parce que les surfaces les plus récentes sont au-dessus et puis les couches les plus profondes sont dans le passé. Et donc, quand on arrive à il y a 65 millions d'années, on voit une couche d'iridium. Or, on sait que l'iridium n'existe pas beaucoup sur la surface de la Terre, mais existe dans des astéroïdes. Donc, on sait qu'il y a un astéroïde, quelque chose qui est venu de l'espace. Donc, vous voyez, c'est ce genre d'enquête, comme à la Sherlock Holmes, comme dans un moment policier. Il faut amener le lecteur à essayer de tourner les pages, comme dans un roman policier, afin de trouver justement le coupable ou la solution dans le cas scientifique. Et dans l'écriture, j'essaie toujours aussi d'introduire une note poétique. Alors, vous savez, je manie les phrases, je ressasse mes mots, etc. Et c'est pourquoi j'écris en français, parce que c'est une langue où je sens la sonorité des sons, vous voyez, où j'essaie de trouver des mots qui sonnent bien, qui se lisent bien, etc. Et donc, pour moi, c'est très important. Et donc, c'est pourquoi j'aime beaucoup la langue française, de ce point de vue. Il y a un vocabulaire merveilleux et une sonorité des mots merveilleux aussi.
Je me suis laissé dire qu'à l'Institut français au Japon, il y a une phrase dans cet institut qui indique « La langue de l'amour, de l'esprit et de la science, c'est le français. » Donc,
je ne serais pas contre cet avis.
Oui, alors, parce qu'un scientifique doit-il, parce qu'il fait un travail d'ordre scientifique, dans le domaine scientifique, se couper de son imaginaire, se couper de ses sensations? On a l'impression que ce sont uniquement des cerveaux déconnectés de tous les sens et de toute cette partie imaginaire qui fait aussi partie de l'homme et de la constitution de chaque être humain.
Tout à fait.
Qui se met en route pour travailler à ses lunettes, si on est astrophysicien.
Bien sûr, bien sûr. Vous savez, et moi je dis toujours, la motivation première, en fait, c'est l'émotion. Vous savez, c'est pas des choses arides. Bon, comme l'homme de la rue pense à la science, peut-être il pense à quelque chose de très aride, des équations mathématiques qui sont indéchiffrables, etc. Mais bon, en fait, c'est faux. Vous savez, pour un chercheur, c'est vraiment l'émotion. Pour moi, dans ce cas, c'est la contemplation de l'univers, cette contemplation de cette beauté, de cette harmonie qui m'entoure, qui est la première motivation. Vous savez, l'intellect, la raison, les équations mathématiques viennent après pour étayer donc cette admiration devant cette beauté, cette organisation. Et donc, il faut justement communiquer cela au public parce que, comme vous le dites très bien, vous voyez, un scientifique est un être humain et donc il est motivé aussi par des sensations, des émotions toutes humaines.
L'une des grands ennemis de la science au cours de tous ces siècles, puisqu'ici à l'Institut de France, nous avons nombre de scientifiques qui se sont penchés sur l'histoire. Et donc, c'est la religion. Les religions qui ont mis souvent des freins à cette découverte scientifique.
Oui, et dans mon domaine en particulier, bien sûr, c'est l'affaire Galilée. Qui a, vous savez, c'était donc 1543, Nicolas Copernic dit que la Terre n'est plus au centre du monde, mais le Soleil est au centre du système solaire et la Terre est reléguée au rang d'une simple planète tournant autour du Soleil. Et ce système géocentrique, bien sûr, fit scandale, parce que vous savez bien, l'Église par une interprétation, moi je dirais trop littérale de la Bible, pensait que et disait que l'univers est fait pour le seul bénéfice de l'homme et que la Terre donc doit être le centre du monde. Et bien sûr, cela n'allait pas du tout dans le sens du système copernicien. Et Galilée, qui fut le premier à braquer un télescope vers le ciel en 1609, vit beaucoup de phénomènes qui confirma donc cette vue que la Terre n'était pas au centre du monde. Par exemple, que Vénus avait des phases, vous voyez, Vénus comme la Lune, à des quartiers, à des plaines Vénus, etc. Et cela ne pouvait s'expliquer que si Vénus tournait autour du Soleil et non autour de la Terre. Et puis Galilée aussi découvrit, par exemple, les quatre plus grosses lunes autour de Jupiter, et qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs lune galiléenne. Et donc, il voyait bien qu'il y a des objets qui tournaient autour de Jupiter, donc non autour de la Terre. Donc, il clama haut et fort, bien sûr, son support pour le système héliocentrique de Copernic.
Et trop fort.
Et trop fort. Et donc, il fut traduit devant l'Inquisition. Et l'Église le força à renier publiquement ce qu'il avait trouvé, enfin, ses découvertes scientifiques. Mais il a dit, bien sûr, la légende dit qu'il a dit, et pourtant, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non le contraire. Et donc, moi, je pense que cela consomma donc, le divorce entre la science et la religion.
Et en ce 21e siècle, alors, qu'en est-il de la position catholique aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes penché sur ce problème? Est-ce que vous accueillez des séminaristes en quête de ce mystère des étoiles? Est-ce que vous ressentez une interrogation, un désir de savoir, de découvrir, d'enrichir une foi par les découvertes scientifiques?
Je pense qu'il y a peut-être un peu plus de dialogue maintenant entre la science et la religion, et en particulier donc...
Les grandes institutions religieuses.
Oui, les grandes institutions religieuses. Et je pense que, d'ailleurs, le Vatican a même un observatoire, vous voyez, et j'ai participé à des colloques organisés par le Vatican, etc. Et donc, il y a un souci...
De communication, d'ouverture, d'échange.
Oui, d'échange. Et je pense que l'Église contemporaine est bien consciente que maintenant, il ne faut plus qu'elle dise aux scientifiques ce qu'ils doivent trouver. Hein. Comme on disait au temps de Galilée, l'Église peut nous dire comment on va au ciel, mais elle ne peut pas dire comment va le ciel. Et donc, je pense que les gens de l'Église sont conscients de ça. Donc, il y a un dialogue et plus d'ouverture, moi je dirais, et j'espère que cela va continuer, bien sûr.
Alors, on a analysé rapidement la science du côté scientifique. Maintenant, du côté du public, est-ce que vous ne pensez pas aussi que quelque part, par rapport au grand public, il y a une sorte de rejet, de déni, pour employer des mots forts, de cet infiniment grand, de cet infiniment petit, de cette dimension cosmique de chacun d'entre nous, qui est oubliée? Alors, est-ce volontairement, est-ce involontairement? Est-ce que cette dimension ne fait pas peur? Parce qu'on a souvent peur de ce que l'on ne connaît pas, de ce que l'on appréhende mal. Et n'est-il pas trop perturbant de nous savoir tous embarqués sur cette petite sphère, sur cette planète qui tourne sur elle-même avec un centre de gravité comme ceci, comme cela, qui elle-même se déplace autour d'autres astres, etc. C'est une condition. Cette condition n'est-elle pas encore plus perturbante que cette idée de mort? Et on sait à quel point la mort nous hante à nous, humains. Mais cette dimension cosmique et cette chose que l'on ne vit pas au quotidien, c'est métro, boulot, dodo, le quotidien, est-ce que ce n'est pas quelque chose que nous ne voulons pas voir?
Bon, bien sûr, il y a cette angoisse à l'infini. Ça, je pense que ça a été toujours humain, et même Pascal, qui était un grand scientifique, vous savez, avait déjà dit au XVIIe siècle, le silence éternel, des espaces infinis m'effraient. Et c'est vrai que nous avons peut-être peur de ce que nous voyons, ne ressentons pas directement. Et donc, certainement l'infiniment petit. L'infiniment grand, je pense que c'est peut-être plus abordable, parce que quand même, nous voyons le Soleil, nous voyons la Lune, nous voyons demi-étoiles à l'œil nu. Et si vous avez un petit télescope, vous voyez encore d'autres merveilles de l'univers. Moi, je pense que le ciel, quand même, est poétique. Et donc, je me trouve un peu chanceux, en fait, de travailler dans ce domaine où il est beaucoup plus facile de parler de ce que je cherche ou de ce que j'étudie, parce que, justement, les gens, tout le monde lève les yeux vers le ciel et puis... voir la Voie lactée, vous savez, voir les planètes, voir les étoiles. Et je pense qu'aucun être humain n'est insensible à cette poésie du ciel. Donc, il y a un contact plus ou moins direct déjà avec le ciel. Mais c'est vrai que, bien sûr, avec les grands télescopes, seule une petite poignée d'hommes sur Terre, peut-être quelques milliers, vous savez, ont accès à ces grands télescopes qui permettent justement de regarder très loin et donc de remonter dans le temps d'une dizaine de milliards d'années. Et donc, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que à l'échelle humaine, ça peut être effrayant. Et donc, d'ailleurs, c'est ce rapetissement de la place de l'homme, vous voyez, nous qui pensons, en Occident en tout cas, hein, pas en Orient, mais en Occident, où les gens ont pensé à Aristote, par exemple, où les Grecs pensaient que nous étions le centre du monde, nous qui pensions être le centre du monde, maintenant, nous sommes seulement perdus, donc dans une planète tournant autour d'un astre qui est parmi les centaines de milliards de soleils dans la Voie lactée. Voie lactée qui, à son tour, se perd parmi les centaines de milliards de galaxies dans l'univers observable. C'est vrai que ce rapetissement engendre l'angoisse, ça c'est certain. Cette angoisse, ces espaces infinis dont Pascal parlait si bien.
Et la physique quantique encore plus, vous le disiez. L'infiniment petit pourrait nous entraîner dans un vertige.
Tout à fait, tout à fait. Parce que là, vous savez, nous n'avons pas un contact direct avec ça. Enfin, par exemple, nous voyons cette table. Si nous avions des yeux qui voyaient à l'échelle atomique, nous verrons des atomes bouger, des électrons circuler, etc. Mais nous ne voyons pas tout ça. Vous voyez, et donc, ça nous paraît très étranger et donc angoissant.
Alors, est-ce que justement la condition humaine n'est pas la sagesse de vivre avec les outils qui nous ont été donnés et de ne pas plus nous interroger? Parce que, comme vous le disiez très justement, nous vivons entourés, alors la robotique, les instruments, les machines, oui. L'intelligence artificielle est avec nous maintenant, mais quel est celui ou celle d'entre nous qui savons exactement toutes les pièces du moteur qui se trouvent sous le capot de notre voiture? Non. Or, nous mettons la clé et nous faisons marcher
bien
nos voitures. L'ordinateur, c'est pareil. Donc, nous utilisons chacun à notre niveau de connaissance et de perfectionnement ces machines, cette intelligence artificielle, mais nous n'allons pas jusqu'au bout de la démarche, comme notre corps. Je suis en train de penser, je suis en train de vous parler, mais je ne connais pas les zones de mon cerveau qui sont en train de se mettre en vibration pour me permettre de dire ce mot qui est dans mon cerveau, etc. Donc, ce sont des choses qui m'appartiennent, mais que je ne vois pas, je n'ai pas la connaissance de toutes ces choses-là. Et pourtant, j'en vis. Et pourtant, je vis de ça. Et je suis cette résultante-là. Alors, qu'est-ce que la science et la philosophie, vous qui faites ce parcours en même temps, et qui avez la sagesse de faire ce parcours science avec conscience, peut nous apprendre?
Moi, je dirais dans tout ça, hein, dans toute cette avancée de la science et surtout donc de la technologie, moi, je pense que ce qui permettra de nous sauver et de trouver donc notre équilibre dans tout ce monde qui accélère, qui va de plus en plus vite. Moi, je pense que c'est justement, vous voyez, la sagesse, la philosophie, la sagesse et donc une sorte de morale et d'éthique. Et donc, pour moi, justement, la science n'est pas en elle-même suffisante. Vous voyez, il faut un complément. Et pour moi, ce complément, c'est la spiritualité. La science en elle-même, moi, je pense, est neutre. Elle ne peut pas nous guider, elle ne peut pas nous dire comment agir envers nos semblables ou notre entourage immédiat. Elle est neutre, c'est comme un bras, vous savez, la force d'un bras peut tuer, mais aussi sauver une vie. Donc, c'est vraiment l'application qu'on en fait qui est importante. Et comment donc guider, donc choisir les sortes d'applications qu'on fait de la science, seul, moi je pense, une morale, une éthique, une sorte de spiritualité peut nous dire cela.
Mais entrer de plus en plus profondément et plus en avant dans cette connaissance, c'est quelque chose que vous vivez bien, que vous vivez bien en sagesse.
Oui, tout à fait, tout à fait. La connaissance, bon, c'est mon métier, hein, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire reculer les frontières de la connaissance. Donc, c'est ça la motivation première de mon activité scientifique. Mais oui, donc je le vis bien, mais comme je l'ai dit, il faut d'autres choses complémentaires.
Alors, pour terminer sur ce chapitre-là de la communication, de la connaissance, justement, je voulais vous demander, avec la crise des idéologies, les limites qu'on a vues au cours des siècles des religions, je ne parle pas ni de spiritualité, ni de foi, je parle de religion. Est-ce que cette science, finalement, ce ne serait pas le domaine dans lequel tous les hommes, toute l'humanité pourrait se retrouver, justement, pour être éclairé, pour avancer, parce que, comme vous le disiez, c'est un terrain neutre.
Oui.
Ce sont des questions qui nous appartiennent.
Oui.
Et pourtant, regardez à l'école, la science n'est pas tellement présente. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on leur fait vivre cette dimension cosmique et on la...
Non, c'est dommage, parce que je pense que, pour moi, bien sûr, l'étude de l'univers n'est pas seulement l'étude des phénomènes. C'est très intéressant. Moi, je pense que le Big Bang ou les trous noirs sont des phénomènes extrêmement intéressants. Mais ce qui m'importe beaucoup aussi, c'est justement les conséquences métaphysiques et philosophiques qu'on puisse en dériver. Par exemple, vous savez, nous savons maintenant, que tous les éléments lourds dont la vie sont faits ont été fabriqués à l'intérieur des étoiles et lors de leur mort explosive dans les supernovas. Donc, sauf l'hydrogène et l'hélium qui ont été faits dans les 3 premières minutes de l'univers, dans le Big Bang, mais tous les autres éléments chimiques que nous apprenons tous sur les bancs de l'école, ce qu'on appelle la table de Mendeleïev, les 92 éléments stables de la nature sont faits à l'intérieur des étoiles. Donc, les étoiles sont nos ancêtres et nous sommes tous les enfants des étoiles et nous partageons tous la même généalogie cosmique. Donc ça, je pense que ça devrait engendrer, vous voyez, un sentiment d'interdépendance justement entre toutes les races humaines et envers notre planète aussi, parce que nous sommes tous faits de la même matière, nous partageons tous la même géologie cosmique. Donc vous savez, ce genre de choses, on devrait apprendre. C'est-à-dire que...
Même les dans les petites classes.
Oui,
même,
les petites classes. Parce qu'on n'a pas besoin de mathématiques ou d'équations pour décrire tous ces concepts.
Oui, parce que vous parliez de la beauté. Donc
oui,
l'enfant peut être tout à fait sensible.
Et d'ailleurs, l'enfant est très sensible à la beauté. Donc je pense que c'est la première chose qu'il remarque. Et donc la beauté, l'organisation de l'univers aussi, il faut leur apprendre. Parce que justement, il faut leur apprendre qu'il y existe des lois physiques. Vous savez que tout ce que nous voyons autour de nous, en fait, est déterminé par seulement une quinzaine de normes qu'on appelle constantes physiques. Et quelques conditions initiales. Et tout dérive de cela. Toute la complexité, la beauté du monde, l'harmonie du monde dérive de ces quelques constantes physiques.
Et oui, alors plutôt que d'apprendre ça à un âge avancé, qui pourrait donc nous provoquer cette espèce de vertige dont je vous parlais, parce que c'est un choc. Mais quand on y est habitué, quand c'est quelque chose, une histoire qui devient la nôtre, ben, nous la partagerions tous. Et je pense que les choses se feraient naturellement, comme quand on apprend une langue étrangère,
oui,
je veux dire.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'il faut justement introduire toutes ces idées à un très jeune âge, vers 10 ans, par exemple.
Ah, ça sera peut-être l'un de vos travaux, alors, non?
Oui, mais
dans la communication.
J'ai l'intention d'écrire pour les enfants aussi.
Très
dans
bien.
Le futur. Oui.
Alors, justement, pour nos auditeurs de Canal Academy, cher Trinh Xuan Thuan, on va faire un petit parcours, un road movie à travers vos ouvrages. Alors, tout a commencé, je veux dire, votre aventure d'écriture avec La Mélodie secrète et L'homme créa l'univers. Alors, c'était chez Fayard, c'était en 88.
Oui.
Et c'était un premier essai, alors.
Oui.
Alors, déjà, un titre provocateur.
Oui. Donc, c'est un livre sur comment les idées de l'homme sur l'univers ont évolué au cours des âges. Donc, je commence avec l'univers mythique. Vous voyez, par exemple, où les civilisations, les gens pensaient que tout ce qui se passait dans l'univers était l'action de Dieu. Par exemple, les Égyptiens pensaient que le ciel était le corps d'une belle déesse, la déesse Nout, vous voyez, avec les étoiles, tous ses bijoux, par exemple. Et les Indiens, par exemple, pensaient que la création du monde dérivait, donc, était la conséquence de la danse du dieu Shiva. Dans ma partie du monde, en Asie, c'est deux forces polaires, ce qu'on appelle le yin et le yang, toujours en interaction, qui crée le monde. Vous voyez, donc ça, c'est plutôt une vision mythique du monde. Et puis donc, je parle aussi de la première vision scientifique du monde qui survient avec les Grecs, bien sûr, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, c'est la première fois que les gens, une poignée d'hommes extraordinaires, se dirent que la raison humaine pouvait comprendre les lois physiques imposées par les dieux sur l'univers, sur le monde. Et puis après, bon, je parle de la révolution copernicienne, tout ça, juste donc à la théorie du Big Bang. Et pourquoi la mélodie? Mélodie parce qu'il y a une organisation, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. La musique, elle n'est pas désordonnée, donc il y a une organisation, une harmonie extraordinaire, et donc il y a une mélodie qui n'est pas donnée, mais donc il faut déchiffrer. Mais pour moi, justement, elle restera toujours secrète, parce que je pense que notre cerveau ne pourra jamais comprendre tout ce qui est contenu dans l'univers. C'est-à-dire la science va toujours progresser, toujours un peu plus, mais la science est comme une hydre à 1000 têtes. Vous coupez une, vous avez 1000 autres se dressent. Donc, à mesure que vous vous rapprochez du but, le but recule. Et donc, vous n'atteignez jamais le but, en fait. Donc, elle restera toujours secrète, à mon avis. Mais c'est ça qui fait le challenge du scientifique. Pour moi, c'est un challenge, parce qu'il y aura toujours des mystères. Et ça, pour moi, c'est bien.
Et ça, pour les nouvelles générations, c'est formidable.
Formidable.
Parce qu'on parlait de la fin des idéologies. Ça, c'est quelque chose qui ne sera jamais atteint et qu'on veut toujours atteindre.
Tout à fait, tout à fait. Il y aura toujours des mystères. Il y aura toujours de quoi faire pour toutes les prochaines générations.
Alors, ensuite, est venu un ouvrage collectif paru chez Ganymède, c'était « Quelle science pour demain ?»
Oui, oui, donc ça c'est plutôt
sur l'astrophysique, vous concernant,
réflexions sur l'astrophysique avec un ensemble d'auteurs, oui.
Alors ensuite, chez Gallimard, « Le destin de l'univers », c'était en 2008, « Le Big Bang » et après.
Ouais. Voilà, donc...
Et on peut même dire « et avant » aussi, hein.
Avant, vous savez, le temps est né en même temps le Big Bang, donc avant le Big Bang pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas trop en dire, parce que justement la physique perd pied. Vous savez, ce qu'on appelle au mur de Planck, 10^-43 secondes.
Donc, le temps est né avec le Big Bang.
Tout à fait, tout à fait. Donc, dire quelque chose qui existe avant le Big Bang, quand le temps n'existait pas encore, n'a aucun sens pour l'instant.
C'est notre outil de mesure, le temps.
Oui, mais seulement quand l'univers est déjà existant, pas quand l'univers n'est pas encore né. Donc pour l'instant, on ne sait pas, vous voyez. On s'aventure sur des territoires, donc au-delà du mur de Planck, où la physique n'a pas encore pénétré, en fait. Oui.
Je me permets de revenir sur « Et la mélodie secrète oui. » et « L'homme créa l'univers ». Vous oui. parliez de ces belles mythologies, ces contes pour oui. adultes que oui. l'homme, pour se rassurer, a créés.
Oui.
Et là, vous me parlez de théorie du Big Bang. Donc, on reste encore dans quelque chose de démontré jusqu'à maintenant,
oui.
mais qui reste une théorie.
Oui.
Et
oui.
vous vous méfiez. Vous ne voulez pas raconter des contes aux êtres humains que nous sommes. Les scientifiques, vous avez cette responsabilité aujourd'hui de ne pas vous investir dans des histoires, entre guillemets, mais...
Oui, parce que c'est ce qu'on appelle la méthode scientifique. Vous savez, nous avons maintenant des instruments formidables, en l'occurrence, dans mon domaine, des grands télescopes pour vérifier tout ce que nous avançons, et même des grands accélérateurs de particules, hein, parce qu'en fait, les télescopes ne peuvent remonter le temps que jusqu'à l'an 380 000 après le Big Bang. Avant, l'univers était opaque, donc la lumière ne pouvait pas se propager. Et donc... C'était une immense soupe de particules élémentaires et c'est pourquoi des accélérateurs de particules comme celui au CERN maintenant, le LHC, vous savez, Large Hadron Collider, le grand collisionneur de protons, nous aide aussi à explorer l'état de l'univers à des temps qui sont antérieurs à l'an 380 000. Donc, je voulais revenir sur la méthode scientifique. Donc, nous avons tous ces instruments. Vous savez comment la science moderne fonctionne? On observe l'univers, donc soit avec un télescope, soit avec un microscope. On construit une théorie donc pour expliquer ce qu'on observe. Cette théorie prédit quelque chose, un autre phénomène qui peut être vérifié par l'observation de nouveau. Donc on revient au télescope ou au microscope pour vérifier si la théorie est correcte ou non, la prédiction est correcte ou non. Si elle est fausse, il doit modifier la théorie ou la jeter carrément à la poubelle et recommencer à zéro. Si elle est confirmée, bien sûr, ça renforce la théorie. Donc, il y a toujours un va-et-vient constant entre l'observation et la théorie, ici. Vous voyez?
Ah, observation et votre imaginaire, et votre travail aussi, votre réflexion.
Oui, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie.
Les l'observation, hypothèses.
Oui, les hypothèses, les modèles. Tout ça, c'est la théorie. Mais l'observation, c'est vraiment par des instruments très performants, comme le télescope ou le microscope, ou des accélérateurs de particules.
Alors, restez près de votre microscope là, pour nous parler de cette matière noire, nous faire un peu le point. On peut se reporter aussi à une émission que Canal Academy propose, une émission au cours de laquelle Françoise Combes, qui est astronome à l'Observatoire de Paris et qui est membre de l'Académie des sciences vous connaissez,
oui.
fait un très bel exposé sur nos connaissances actuelles. Alors, évidemment, c'est un exposé qui date de 2007, mais... On y apprend que l'univers est composé à 73% d'énergie noire.
Oui, 74% d'énergie noire. C'est...
Une énergie.
Oui, énergie noire. Et c'est une sorte, moi je dirais, de force anti-gravité, force répulsive, parce qu'elle est, vous savez, responsable de l'accélération, l'expansion de l'univers. Ça, c'était une grande découverte en 1998, qui a été d'ailleurs récompensée par le prix Nobel de physique juste l'année dernière. Et en fait, c'était une grande surprise, parce que on savait que l'univers a une expansion. Vous savez, l'espace est dilué constamment et donc il y a de plus en plus d'espace entre les galaxies. Et c'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers, découverte en 1929 par Edwin Hubble. Et on pensait que l'univers ne contenait que donc, la matière. Or, la matière, vous savez, est sujette à la force de gravité. Alors, la force de gravité est attractive, elle attire toujours. Donc, c'est pourquoi, par exemple, si vous trébuchez, vous tombez par terre, parce que c'est la Terre qui vous attire vers son centre. Et donc, en fait, cette force attractive devrait décélérer l'univers, l'expansion de l'univers. C'est comme si vous appuyez sur le frein de votre voiture. Vous savez, votre voiture décélère. Mais en fait, patatras, les astronomes découvrent l'opposé, vous voyez. Au lieu de décélérer, l'expansion de l'univers est en train d'accélérer. C'est comme si vous appuyez sur la pédale à gaz, votre voiture, elle va de plus en plus vite. Et donc, l'expansion de l'univers va de plus en plus vite en mesure du temps. Donc, il y a quelque chose qui repousse, qui n'est pas attractif, mais répulsif, vous voyez, ce qu'on appelle une force anti-gravité. Et pour faute de plus de connaissances, on l'appelle l'énergie noire. Mais pour l'instant, malheureusement, on est dans le noir complet, hein, malheureusement, parce qu'on ne sait pas trop quelle est la nature physique de cette énergie noire. Et donc, les astrophysiciens d'arrache travaillent d'arrache-pied. Et quand même, ça fournit les trois quarts du contenu de l'univers. C'est énorme.
75%, vous disiez, c'est énorme.
Oui.
Alors, à part ces 75% de mystère complet,
oui.
mais d'énergie très active.
Qui repousse, quelque chose qui repousse.
Donc, il y aurait 23% de matière noire.
Oui, en fait, il y a plus que ça. Il y a, moi, je dirais, deux sortes de matière noire. Hein. Il y a la matière noire, ce qu'on appelle ordinaire, c'est-à-dire faite de matière ordinaire, comme les protons et neutrons dont nos corps sont faits. Et ça, c'est seulement 3,5%. Et il y a 22% donc, de matière noire exotique, c'est-à-dire de matière noire dont on ne connaît aucunement la nature.
Qui ne nous forme pas, qui n'en a pas sur la planète.
Oui, oui, on ne sait pas de quoi elle est constituée. Vous voyez, nos corps ne sont pas faits de ça, cette âme n'est pas faite de cette matière noire exotique. Mais on sait qu'elle est là, parce, justement parce que la gravité, elle exerce la gravité, et donc qui modifie le mouvement des étoiles et des galaxies. Vous voyez, donc par l'étude des mouvements des étoiles et des galaxies, on peut déduire qu'elle est là. Donc il y a 22% plus 3,5%, ce qui est 25,5% donc, de matière noire. Donc le total, c'est 74 plus 25,5%, c'est 99,5%. Donc il reste 0,5%. Et bien sûr, ça, c'est les matières lumineuses. Donc en fait, les 100 milliards de galaxies, chacune composée de 100 milliards de soleils, ne constituent que 0,5% du contenu de l'univers. Vous voyez, c'est vraiment... Donc nous vivons vraiment dans un univers iceberg. Nous voyons un tout petit bout qui émerge de l'eau, mais tout est inconnu, en fait. Donc, ça nous remet à notre place, d'abord. Et puis, ça donne du pain sur la planche. Sinon, pour les astrophysiciens, nous avons encore beaucoup de travail pour déchiffrer ce grand mystère.
Oui, oui. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On devrait tous se sentir concernés par ce grand mystère et donner toutes les possibilités aux jeunes générations de s'y adapter et de vouloir... de transmettre ce plaisir d'y travailler comme on le sent chez vous, Trinh Xuyen Tuan. Je crois que c'est vraiment d'une priorité accablante.
Oui, oui, non, il faut donner l'envie, il faut donner le désir,
le
faut l'enthousiasme.
L'enthousiasme.
Et c'est ça qui fait un bon scientifique.
Françoise Combes nous explique que l'univers serait plat. Alors, 14 milliards d'années d'existence est plat.
13,7 milliards. Plat, c'est-à-dire, c'est une courbure. Hein. Ça veut dire que la courbure de l'univers où on pense... où nous vivons, c'est plat comme cette table, par exemple. Vous voyez, parce qu'il y a trois sortes de courbures possibles dans l'univers. Et ça, c'est donné par les équations de la relativité générale d'Einstein. C'est Einstein qui est le premier, donc, par sa théorie de la relativité générale, à poser les équations pour nous permettre donc, d'étudier dans le comportement de l'univers. Le premier cas de figure, c'est un univers à courbure positive, c'est-à-dire comme la courbure d'une sphère. Et ça, c'est ce qu'on appelle un univers fermé, c'est-à-dire un univers... qui aura une expansion, mais cet univers aura assez de matière pour stopper son expansion. Et puis donc, l'univers va décélérer de plus en plus et puis s'effondrer sur lui-même. Et on aura donc un Big Bang à l'envers, ça s'appelle un Big Crunch. Et donc, c'est ce qu'on appelle une courbure positive. Et puis, il y a un univers en expansion éternelle, ce qu'on appelle un univers ouvert. Et donc, ça, c'est la courbure d'une selle à cheval, par exemple. C'est ce qu'on appelle une courbure négative. Et nous... nous sommes entre les deux, entre une courbure positive et une courbure négative, ce qu'on appelle une courbure zéro. Donc, c'est ce qu'on appelle un univers plat. C'est-à-dire, l'univers aura une expansion éternelle aussi, mais va s'arrêter seulement après un temps infini. Vous voyez?
Qu'est-ce que c'est que le temps infini?
Oui, oui.
Donc pas de Big Crunch, temps infini. Mais qu'est-ce que c'est que ce temps infini? Parce que dans le mot infini, il y a comme une mesure, quoi. Il y a quand même quelque chose.
Ça tend vers l'infini, c'est-à-dire, il y a... pour toujours, quoi. Oui. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur l'infini, d'ailleurs. Vaste thème, bien sûr.
Ah, mais vous reviendrez nous en parler, alors, dans ce travail infini. Et vous parliez d'Einstein, pour lequel vous gardez...
Oui, c'est mon idole scientifique, vous savez. C'est celui qui m'a inspiré pour tomber, en quelque sorte, dans la marmite de la science, en quelque sorte.
Parce que, comme vous, ébloui par la beauté de l'univers...
Tout à fait, tout à fait. Je suis toujours émerveillé, non seulement par son génie scientifique, mais aussi pour son humanité. Justement, on parlait tout à l'heure, vous voyez. La science n'est pas suffisante en elle-même. Moi, ce que j'admire chez Einstein, c'est non seulement le grand scientifique, mais aussi un être humain d'une grande qualité.
Alors, vous citez un autre mathématicien aussi, français, Henri Poincaré. Vous citez dans l'un de vos ouvrages, « Le scientifique n'étudie pas la nature pour un but utilitaire, il étudie parce qu'il y trouve du plaisir, la notion de plaisir. »
Plaisir, tout à fait.
« Il y trouve du plaisir parce que la nature est belle. » Et si la nature n'était pas belle, elle ne vaudrait pas la peine d'être étudiée et la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. C'est
très, magnifique. Très, très bien dit. Je partage entièrement.
De la part d'un mathématicien, c'est génial.
Oui, oui, non, mais, oui, mais c'est extraordinaire. Mais de nouveau, vous voyez, l'idée que les gens ont des mathématiciens est fausse. Elle n'est pas sèche, elle n'est pas rigide. Justement, ces gens sont motivés par des notions, vous voyez, de beauté, d'harmonie, de plaisir.
De plaisir. Ils se mettent en route dans leur recherche par la beauté et le plaisir.
Voilà.
On continue notre parcours, votre parcours, à travers vos différents ouvrages. Alors ensuite, le chaos et l'harmonie chez Gallimard, la fabrication du réel, et chez Fayard.
Chez Fayard de nouveau, et ça, c'est un autre essai. Et là, je voulais, vous savez, c'est une sorte de complément, en quelque sorte, à La Mélodie secrète. Parce que dans La Mélodie secrète, j'ai décrit donc l'histoire de l'univers, en quelque sorte. Mais je ne voulais pas laisser donc, les lecteurs sur l'impression fausse que tout est déterminé à l'avance, que les lois physiques, en quelque sorte, déterminent tout à l'avance, que nous n'avons plus aucun libre arbitre, que nous vivons dans un univers complètement déterministe. Et ce n'est vraiment pas le cas, vous voyez, parce que justement, la science du 20e siècle a introduit des éléments qui nous disent qu'il y a assez de liberté pour que la nature crée à partir des lois physiques. Alors, je parlais tout à l'heure des lois physiques et de ces constantes physiques. Et pour moi, c'est comme un jour de jazz. Je dis toujours que la nature joue du jazz, vous voyez. Le jour de jazz, quand il joue devant une audience, il joue une pièce de musique qui a une sorte de trame. Mais en fonction de son inspiration et de la réaction de l'audience, il varie, il crée, il brode sur cette trame de musique, vous voyez. Et donc, il y a toujours la créativité. Et pour moi, je voulais justement décrire au lecteur cette merveilleuse créativité du monde, de l'univers, à travers ces lois physiques. Et donc, tout n'est pas déterminé à l'avance. Parce que, vous savez, après Newton et Laplace aussi, grand savant français, qui pensait que tout était déterminé à l'avance. Laplace, par exemple, disait que s'il y avait un démon qui pouvait mesurer les positions et les vitesses de chaque atome dans l'univers, tout sera déterminé à l'avance. Nous verrons donc le passé, le présent et le futur de manière complètement déterministe, vous voyez. Et donc, c'est un peu triste comme vue, moi, je pense, parce que, bon, justement, il n'y a plus aucun libre arbitre. Or, ce n'est pas vrai. La science du 20e siècle a réenchanté le monde. Et donc, par exemple, il y a, vous voyez, ce qu'on appelle le flou quantique. On ne peut pas déterminer, justement, précisément à la fois la vitesse et la position d'une particule élémentaire, ce qu'on appelle le flou quantique, ce principe d'incertitude d'Heisenberg, pour ceux qui savent. Et aussi, on parlait d'Henri Poincaré tout à l'heure, c'est lui le précurseur, vous voyez, de ce qu'on appelle la théorie du chaos. Chaos ne veut pas dire absence totale d'ordre, comme l'homme de la rue le pense, mais en fait, le chaos, en science, veut dire que des situations où si vous changez un tant soit peu les conditions initiales, les résultats divergent exponentiellement. C'est-à-dire les résultats dépendent de manière très sensible sur les conditions initiales. Et donc, on ne peut pas prédire les choses à l'avance. Parce que vous changez un petit peu les choses, vous voyez, changent complètement. Dans le langage courant, on appelle cela l'effet papillon. Vous savez, c'est-à-dire un battement de papillon au Brésil peut faire pleuvoir à Paris, par exemple. Vous voyez. Donc, tout cela donc, introduit de la liberté dans la nature. Donc, elle peut broder sur des lois physiques déterminées et créer cette beauté, cette complexité du monde. Et donc, c'est un univers très créatif que j'admire beaucoup.
Vous disiez pas de déterminisme.
Oui, ça c'est le cas de l'harmonie. Hein? Oui.
Mais par rapport à Einstein, lui, il était un peu déphasé par rapport à ça
Non, déphasé, c'est-à-dire qu'il n'était pas au courant de ni la théorie du chaos. Oh, je pense qu'il accepte, bien sûr, le principe d'incertitude d'Heisenberg. Bien sûr, il n'aimait pas la version probabiliste, vous savez, parce que la mécanique quantique dit que si vous ne mesurez pas les choses, vous pouvez déterminer seulement la probabilité que la particule soit ici ou là, etc. Et Einstein était plus déterministe que ça. Il ne voulait pas que Dieu joue au dé, justement. Vous voyez, il disait « Dieu ne joue pas au dé ». Donc, c'est ça.
Viendra ensuite « L'infini dans la paume de la main » de
Mathieu Ricard. Oui, c'est un livre important pour moi. Parce que justement, je parlais tout à l'heure que la spiritualité est un complément indispensable aux scientifiques dans son activité scientifique. Et moi, vietnamien, bien sûr, j'étais élevé dans la tradition bouddhiste. Donc, je voulais confronter avec quelqu'un la vue du réel, vous voyez, d'une tradition spirituelle comme le bouddhisme. Donc, parce que Bouddha donc, a atteint l'éveil il y a 2500 ans. Et pour un bouddhiste, l'éveil, c'est l'accès à la connaissance suprême. Donc, il avait une certaine vue sur le réel. Et donc, j'étais très content quand mon chemin a croisé donc, celui de Mathieu Ricard, qui était un scientifique, un biologiste, un ex-biologiste, vous voyez. Et maintenant, qui est moine vivant au Népal, à Katmandou. Et pour moi, c'est vraiment pas un effort pour rendre la science mystique, ni de justifier le bouddhisme par la science. Parce que ce n'est pas dans un but de faire du concordisme, loin de cela. Parce que le bouddhisme n'a pas besoin de la science, bien sûr. Il existe depuis 2500 ans, tandis que la science n'est née qu'au 16e siècle, la vraie science, la Renaissance. Et bien sûr, la science a sa propre méthode, la méthode scientifique, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et donc n'a pas besoin du bouddhisme du tout. Mais c'est surtout un effort de cohérence intellectuelle. Moi, je me disais que si, vous savez, deux systèmes de pensée logique et cohérents regardent le même réel et s'ils sont tous les deux, donc logique et cohérent, ils doivent se rencontrer quelque part. Parce que s'ils sont complètement orthogonaux et ne se rencontrent nulle part, soit l'un des deux systèmes de pensée est faux, soit les deux sont faux. Donc, pour moi, c'était vraiment un exercice de cohérence intellectuelle et je suis heureux de dire donc, qu'après mon entretien, j'ai vu beaucoup de convergences entre la vue du bouddhisme sur le réel et la vue scientifique du monde du XXe siècle.
Ce sont des plans différents, des accès différents à la connaissance?
Oui, bien sûr, la méthode est complètement différente. La science repose sur des instruments, je vous dis bien sûr, interprétés par l'esprit, mais bien sûr, là, en bouddhisme, c'est surtout l'esprit seulement. Et on regarde vers l'intérieur, on ne regarde pas vers l'extérieur. Donc, c'est une expérience subjective en plus. On n'utilise pas des mathématiques en bouddhisme, c'est plutôt qualitatif. Mais donc, vous voyez, des accès à la connaissance de manière complètement différente, mais finalement, qui débouche sur la même vision du monde, ce qui est très, très bien. Je suis très heureux de cette convergence.
Et dans Le Cosmos et le Lotus, vous accordez plusieurs pages fort intéressantes, magnifiques, sur justement la conscience.
Oui.
La conscience. Alors, cette convergence, est-ce qu'elle se situe dans la conscience? Comment est-ce que vous situez cette conscience?
La conscience, vous savez, donc de nouveau, j'essaie de voir les deux points de vue scientifiques et bouddhistes. Bien sûr, on ne sait pas maintenant comment la conscience a surgi. Pour moi, dans l'histoire de la vie, il y a deux sauts quantiques. Il y a d'abord le premier saut quantique, il y a 3,8 milliards d'années. Pourquoi des poussières d'étoiles inanimées, vous voyez, qui, une fois assemblées, forment la première cellule de vie? Donc, le passage à la vie, on ne sait pas. Et puis, le deuxième saut quantique, c'est le passage de la vie à la conscience, justement. Quelque chose où l'homme commence à se poser des questions sur ce qui l'entoure, à un sentiment de transcendance, quelque chose qui le dépasse, vous voyez. Quelque chose, il pense à ce qui se passe après sa mort, justement, qui le hante toujours. Et donc, est-ce qu'il y a une vie après la mort, etc. Donc, le début de sépulture, je date ça, justement, avec le début de sépulture, des sépultures et puis des dessins de Lascaux, etc. Vous voyez, 15 000, 20 000 ans. Vous voyez, donc, c'est très, très récent, hein, cette conscience du monde. Donc, cette conscience est indépendante de la matière. Vous voyez, pour moi, c'est bouddhiste. Et ça, c'est un pari, parce que scientifiquement, on ne sait pas comment la conscience est née. Il y a des gens qui disent que tout est matière, et donc la conscience n'est que le produit de courants électriques et chimiques, vous voyez,
oui,
dans
vous
les centaines de milliards
Cabanis,
de neurones.
Le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile. Hein,
tout voilà. À fait, tout à fait. Mais je ne suis pas de cet avis. Moi, si j'ai à parier, je pense que la conscience est indépendante de la matière. Et une fois donc, notre support matériel meurt, la conscience reste toujours là. Et le bouddhisme parle de ce qu'on appelle de flot de conscience qui va de support matériel. Parce que vous savez bien, en bouddhisme, il y a aussi le concept de la renaissance. Parce qu'on pense que l'éveil ne peut pas être atteint en une seule vie. Vous savez, 100 ans, c'est trop peu. Donc, il faut plusieurs vies pour acquérir cette sagesse. Mais c'est très difficile. Hein. Il faut, depuis 2500 ans, il n'y a eu qu'un seul Bouddha, qui est le Bouddha historique, qui est Shikamuni.
Alors, tout ça, ce sont des théories, des hypothèses.
Tout à fait.
Auxquelles on adhère, auxquelles on n'adhère
voilà,
pas.
Voilà, ça, c'est une tradition spirituelle.
Voilà, tout à fait. Alors, ensuite viendra L'Arpenteur du Cosmos,
oui.
C'est une série d'entretiens avec Edmond Blachen,
en Belgique,
voilà.
Oui.
Alors sur vous, sur votre art, sur votre science,
c'est ça, c'est ça.
D'astrophysicien.
Oui.
Alors ensuite, vous vous lancez dans un autre essai, La Nostalgie des Commencements, Origine, La Nostalgie des Commencements,
oui.
Chez Fayard et Gallimard.
Chez Fayard. Oui, oui. Et ça, c'est en fait un format beau livre, parce que je voulais, vous savez, les essais, ce sont des mots, hein, et je voulais partager avec mes lecteurs, en fait, la beauté du monde. Et en fait, il y a des photos magnifiques du cosmos dans cet ouvrage.
Et juste après, alors c'est en mots que vous mettez cette beauté de lumière et cette beauté des astres, etc., avec les voies de la lumière,
oui.
Physique et métaphysique du clair-obscur. Alors
oui.
Déjà, dans le titre clair-obscur, vous utilisez un mot que les peintres utilisaient. Alors
tout à fait. Parce que
toute la poésie.
Oui, 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 tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un grand passage sur Monet. Vous savez, j'apprends autant sur la lumière regardant les nymphéas de Monet qu'en décomposant donc, cette lumière avec le prisme dans mon télescope.
Ça veut dire que ces choses-là existent et que nous les captons et que nous savons, dans notre imaginaire, les traduire, soit un peintre sur sa toile. Nous sommes visionnaires de ces choses-là.
Oui.
Nous voyons des choses que la science n'a pas pu encore nous expliquer, mais nous pouvons les appréhender, les concevoir, les percevoir avec
oui, c'est une autre façon de percevoir le monde. La lumière, comment elle se réfléchit, comment elle agit sur ces fameuses nymphéas dans le jardin de Giverny.
Alors, vous nous entraînez ensuite, en 2008, dans un voyage au cœur de la lumière. Là aussi, on a envie de partir avec vous, hein, voyage au cœur de la lumière. C'était chez Gallimard, dans la collection
Découvertes.
Tout à fait.
Et ça, de nouveau, il y a beaucoup d'images. Et Et en fait, ça s'adresse aux plus jeunes, vous voyez. Donc, vous voyez, j'ai toujours en l'esprit, justement, cet éveil à cette beauté, cette harmonie, dès le plus jeune âge.
On dirait du Jules Verne, Voyage au cœur de la lumière. On est parti. Ensuite viendra un dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles, chez Plon et chez Fayard.
Et ça, c'est pas justement un dictionnaire amoureux, c'est un dictionnaire où je parle des choses que j'aime, vous voyez, justement.
Vous faites une sélection, par exemple.
Sélection, voilà. Et donc, il faut pas le lire de A à Z, justement. Vous savez, par exemple, si vous aimez les trous noirs, vous allez aux trous noirs, vous lisez quelques pages.
On ouvre, il y a plein
voilà,
d'entrées.
Il faut picorer là-dedans, vagabonder là-dedans, c'est ça.
C'est très bien, on peut inviter nos auditeurs à acheter ça pour leurs enfants. Dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles et de partager avec eux, de découvrir ensemble en famille, c'est magnifique.
Tout à fait.
Voilà. Ensuite viendra Le monde s'est-il créé tout seul. Alors ça aussi c'est une série d'entretiens avec Patrice Van Hersel.
Voilà. Alors ici je parle justement de ce réglage de l'univers. Vous voyez que l'univers a été réglé de façon extrêmement précise pour que les étoiles se forment et donc fassent les éléments chimiques nécessaires à la vie et à la conscience. Et donc, je parie, vous le verrez, sur ce qu'on appelle un principe créateur. Enfin, moi et Jean-Marie Pelt sont les seuls qui parient sur ce principe. Tous les autres pensent que tout est hasard, que rien n'a de sens. Ça, c'est plutôt des positions philosophiques différentes.
Vous vous accordez plusieurs pages, d'ailleurs, à ce principe créateur. Un principe créateur ou un univers sans commencement.
Tout à fait.
C'est la question que vous posez dans Le Cosmos et le Lotus. Alors, les auditeurs pourront aussi apprécier différents moments au cours de ce livre, accordés à la pensée, à la conscience, à ce que vous appelez l'interdépendance.
Un concept bouddhique.
Un concept bouddhique. Et puis alors, l'homme est capable, selon vous, de déchiffrer ce code cosmique.
Oui, c'est ça qui est extraordinaire, vous voyez. Parce que j'aurais très bien pu imaginer vivre dans une ère où nous subissons les voies, ne comprenons rien du tout. Mais notre intelligence est assez pour comprendre l'univers. Et ça, pour moi, c'est un résultat justement de la symbiose entre l'homme et l'univers.
Et ce qui est formidable, c'est qu'à travers vos ouvrages, alors, il y a le mot de comprendre que vous venez d'utiliser, mais il y a le mot aimer, je voudrais dire aussi. C'est que vous nous faites aimer l'univers dans lequel nous sommes, si bien que la peur dont nous parlions
devrait être moindre, oui.
Et moindre.
Oui.
Parce que le plaisir de découvrir fait que nous sommes lancés dans cette aventure et qu'on a soif de ces découvertes. Et ces découvertes ne peuvent plus nous faire peur.
Oui, si j'accomplis ce but, je serai très, très content.
Eh bien, en tout cas, vous l'avez fait auprès de la lectrice que j'ai été de votre ouvrage, alors Le Cosmos et le Lotus, paru chez Albin Michel. Au bonheur de vous accueillir une prochaine fois, cher Trix Yuan Tuan, parce que nous avons encore plein de questions à vous poser. Et merci pour ce magnifique travail de passeur de lumière et de savoir que vous êtes.
Merci.